production industrielle au sein de la zone euro. Les investisseurs attendent maintenant sereinement la publication dans l'après-midi de l'indice de confiance calculé par l'Université du Michigan. Côté devise, l'euro reste ferme. Il gagne 0,46% et remonte à 1,2214. Et sur les marchés de l'or, au premier fixing londonien, l'once a repris 1,20 pour s'établir à 404,60. Voilà, je rappelle que le CAC 40 est bien orienté. Il progresse de 0,78% à 3720 points. C'était Antoine Verlin à la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
14h et bientôt 4 minutes sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Patrice Géminet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui le responsable d'une des pages les plus sanglantes de l'histoire de France, l'organisateur de la terreur, Robespierre. Domptez par la terreur les ennemis de la liberté et vous aurez raison comme fondateur de la République. Robespierre. D'histoire. Comment un lecteur de Rousseau qui détestait l'injustice et l'arbitraire de l'Ancien Régime a-t-il pu devenir un monstre, celui avec lequel, pour la première fois en France, un gouvernement légalisait la terreur pour se débarrasser de ses adversaires? Il est vrai qu'à l'époque, 4 ans après la chute de la Bastille, la Révolution était dans une situation désespérée. Menacée à l'intérieur par la pénurie, la corruption et la guerre civile, et à l'extérieur par une formidable coalition de toutes les grandes puissances européennes. Pour empêcher que leur victoire permette le retour de la monarchie, il fallait couper les ponts avec le passé. Et le 18 janvier 1793, pour les députés de la Convention qui devaient décider de son sort, le passé, ce jour-là, c'était le roi de France.
Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi, je vote la mort.
Vergniaud.
La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution.
Marat.
La mort.
Saint-Just.
La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort.
Robespierre.
Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort.
Monsieur Péton avait promis d'être fidèle à son pays. Monsieur Péton avait promis d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons pas le quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son.
Laurent Nagli, bonjour.
Bonjour.
Et c'était, après, avant cette chanson très connue, La Carmagnole, c'était Robespierre votant la mort de Louis XVI, le 18 janvier 1793, la première année de la terreur. Dans votre biographie de Robespierre, quand vous évoquez justement le procès de Louis XVI, vous parlez d'un acte fondateur de la Révolution, et c'est un peu effectivement comme ça que Robespierre le comprenait. Il s'agissait moins pour lui, au fond, de tuer, de condamner un homme qu'un symbole et de rendre la Révolution irréversible.
En effet, et je pense qu'il faut bien comprendre que pour Robespierre, le jugement et la condamnation plutôt, et la mort du roi est une affaire déjà jugée depuis longtemps. Du moment que le roi s'est écarté de ce qui est l'idéal de Robespierre et de la Révolution, puisqu'il y a une adéquation entre les deux, eh bien le roi est déjà mort, peut-être pas physiquement, mais il est mort moralement. Et pour Robespierre, il y a une totale adéquation entre ce qui est politique et moral. Donc le roi est déjà, la chose est jugée.
C'est quand même curieux, justement, la chose est jugée, donc il le condamne à mort. C'est curieux de la part d'un homme qui avait été un des rares à demander l'abolition de la peine de mort. D'ailleurs, il explique ce qui s'est passé, l'évolution qui est la sienne, au moment où il condamne Louis XVI à mort. Il dit « Le sentiment qui m'a porté à demander la peine de mort est le même qui me force aujourd'hui à demander qu'elle soit appliquée aux tyrans de la patrie et à la royauté elle-même dans sa personne. » C'est quand même marrant de justifier comme ça, de dire « J'étais contre la peine de mort », et pour Louis XVI, c'est pas pareil.
Oui, parce que Robespierre reste toujours au niveau des principes. Et c'est ce qui revient très souvent pour le qualifier. Ce qui compte plus que les hommes, ce sont les principes. Et donc, c'est un principe presque, je dirais, qui est déconnecté du réel, de dire que l'abolition de la peine de mort, c'est quelque chose de souhaitable, c'est quelque chose qui rentre dans une logique séculaire, celle de la philosophie des Lumières. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, il y a l'adaptation de sa perception à lui de ce qui est le bouc émissaire persécuteur, ce que j'appelle bouc émissaire persécuteur. Et à ce moment-là, la mort se justifie automatiquement pour le traître. Il le dira d'ailleurs dans ses grands discours sur la terreur, pendant la terreur, que le traître ne fait plus partie, celui qui n'est pas, c'est même une façon négative, celui qui ne fait plus partie, ce qui n'adhère pas au principe de la révolution, est automatiquement retranché de la collectivité nationale et donc du monde des vivants.
Vous dites la révolution et pas la République, et en effet on s'aperçoit que Robespierre n'est pas nécessairement républicain, en tout cas pas tout de suite, il ne le sera qu'après la chute du roi le 10 août 1792. Vous citez même cette formule assez curieuse de Robespierre, quand les Girondins l'accusent d'être monarchiste, Robespierre a cette formule étonnante, est-ce dans les mots de république ou de monarchie que réside la solution du grand problème social? Au fond, les problèmes de société l'intéressent plus que la forme politique du gouvernement.
Bien sûr, parce que ce qui compte pour Robespierre, ce n'est pas, même s'il s'est focalisé comme certains de ses contemporains sur les questions de naissance, etc., mais au-delà de ça, ce qui est important pour Robespierre, c'est la conformité, on en revient toujours à cette ligne directrice, la conformité avec l'idéal. Si un homme peut être évêque, peut être un ci-devant, peut être monarchiste, mais s'il est conforme à ce que Robespierre considère comme être l'idéal absolu de justice et de pureté, alors il n'y a aucun problème.
Oui, mais la justice dans ce qui va arriver, c'est-à-dire la terreur. Donc le roi Louis XVI est condamné à mort, exécuté le 21 janvier 1793, et va arriver à l'automne 93 la terreur dont Robespierre est responsable. On a souvent invoqué pour justifier la terreur la conjoncture dans laquelle se trouvait la France à l'époque. Faut rappeler quand même que il y a la pénurie, il y a quasiment la famine dans certaines régions de France, il y a la guerre civile, il y a la Vendée qui se soulève, et puis surtout, il y a l'invasion de la France par une gigantesque coalition militaire. Tout ça a servi à justifier la terreur qui est venue.
Alors, je crois qu'il faut sortir un peu du débat idéologique qu'il y a eu, surtout en ce qui concerne la Révolution française, qui est une période cruciale de notre histoire, qui a un peu trop joué sur cette question. Les adeptes de Robespierre, pour faire vite, disant que le contexte est tout, justifie la terreur, et encore aujourd'hui, répète ça. Les autres, ceux qui sont contre, en disant, mais non, ça n'avait rien à voir. Bien sûr, le contexte a joué. Comment dire le contraire ? La France était en guerre contre toute l'Europe. Seulement, il faut voir que dans les textes de référence de Robespierre, cette obsession du complot est patente dès sa jeunesse, alors qu'il n'est même pas élu aux États généraux. C'est une obsession qui est déjà là.
Oui, mais à l'époque, il est à ce moment-là au comité de salut public, qui a été créé précisément en raison de la gravité des circonstances en 1792. Et alors, il dit, justement, invoquant la mission de ce comité de salut public, Robespierre dit 11 armées à diriger, le poids de l'Europe à porter, partout des traîtres à démasquer, tous les tyrans à combattre, tous les conspirateurs à intimider, telles sont nos fonctions. Bon, il invoque donc ces raisons, cette conjoncture. Laurent Dagli.
Oui, mais est-ce que cette conjoncture justifie la terreur? Là, moi j'ai voulu sortir un petit peu de ce débat et de montrer que il y a différentes modalités à cette époque et la terreur est quelque chose qui est indépendant des événements, dans le sens où les événements expliquent la terreur. elle explique de manière matérielle, factuelle. Mais pour Robespierre, il y a une sorte de machine qui est lancée, qui est interne, qui est une problématique interne et qui peut se nourrir des événements comme justification, mais qui est indépendante dans le fond des événements.
Alors cette machine, ça va être la terreur en septembre 1793 avec une loi absolument incroyable qui est la loi des suspects, hein, qui marque franchement le début de la terreur, puisqu'elle permettait de faire arrêter tous ceux qui, même sans avoir commis d'actes répréhensibles, devaient être réputés, étaient réputés capables d'en commettre. Autrement, le simple soupçon, une simple dénonciation, on pouvait arrêter des gens. C'était bien pire, évidemment, que sous l'Ancien Régime. Une loi proposée le 17 septembre 1793 au vote de la Convention par Saint-Just et en présence de Robespierre.
Le propos de cette loi est clair, citoyens. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour.
Et la vertu, citoyens, la vertu sans laquelle la terreur est funeste. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante.
Extraordinaire cette formule tout à fait authentique de Robespierre, Laurent Dingli, qui invoque la vertu pour justifier la terreur. C'est incompatible en principe.
Pas dans la logique de Robespierre, parce que le but est de purifier la société, c'est-à-dire arriver à l'instauration de cet idéal qui est un idéal partagé par ceux que certains appellent les purs, et faire cette sorte de cité sainte de sorte de Jérusalem terrestre, laïque, entre guillemets laïque. Il faut voir que on parlait de ce rapport entre la terreur et le contexte politique. Il est fort, mais il faut bien voir que dès la fin 1791, c'est-à-dire avant la déclaration de guerre, Robespierre appelle à couper des têtes chaque jour, à couper une tête. Donc, c'est-à-dire que c'est là où il faut un peu pas surestimer l'importance. Elle existe, elle est très importante, mais disons que c'est comme une machine qui s'en va.
Je ne reviens pas au contexte. La machine, c'était terrible. Je crois qu'il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres contradictoires selon les historiens. On parle de 40 000 morts, sans compter tous les morts qui ont été faits en Vendée, qui a finalement été maté. Hein, alors là, ça fait 200 000 à 300 000, ça fait énormément, c'est terrible. Et alors là, vraiment, tout le monde y passait. Après avoir éliminé les Girondins, dont Brissot, après la trahison de Dumouriez, voilà que Robespierre, le comité de salut public, le tribunal révolutionnaire de Fouquier-Tinville condamne les hébertis, c'est-à-dire ce qu'on appelait les exagérés, ceux qui poussaient la révolution trop loin, et puis inversement les indulgents, ceux qui voulaient qu'elle s'arrête, qu'on arrête ce processus infernal, comme Danton, comme Camille Desmoulins, qui sont condamnés à mort, exécutés en avril. Camille Desmoulins, un ami de Robespierre. Ça, c'est quand même incroyable, hein. Un condisciple de Louis le Grand 20 ans avant. Et vraiment, on a l'impression que cet homme aurait tué ses parents pour les principes que vous évoquez, Laurent Dingli.
Oui, d'ailleurs, il s'en est jamais caché. Il a toujours dit que les principes comptaient plus que les hommes. Et il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire ami pour Robespierre. Un ami, c'est quelqu'un avec lequel il entretient une relation privilégiée tant que cette personne reste dans les bons principes. Dès qu'il s'écarte d'un iota, c'est terminé. Il rentre dans le camp des persécuteurs.
Alors, donc, Danton aussi, hein, c'est peut-être aussi parce qu'il aimait pas l'argent de Danton, la façon dont Danton, parce que l'incorruptible ne supportait pas l'argent, ni ceux qui en avaient beaucoup.
Alors, c'est vrai que depuis deux siècles presque, on a opposé le côté noceur de Danton, qui jouisseur, qui aime la vie, avec le caractère esthète de Robespierre, l'anachorète Robespierre. Alors bien sûr, tout ça, ça a joué. Mais il y a aussi, j'ai pas voulu présenter Robespierre comme un quelqu'un de fou, complètement déconnecté de la réalité, ce qui n'a jamais été. C'est-à-dire que son discours s'inscrit aussi dans le réel, il épouse le réel. Et c'est quelqu'un, et il faut insister aussi sur ça, qui est un fin manœuvrier. Il n'aurait jamais été à la place qu'il a occupée à la tête de la République pendant quelques mois, mais une place très très importante, s'il n'avait pas ce génie ce côté stratégique très très prononcé.
Alors en avril, hein, au moment de l'exécution de Danton, d'ailleurs il y a une scène très connue aussi, c'est Danton dont la charrette qu'il conduit à l'échafaud passe devant la fenêtre fermée de Robespierre et qui dit à Robespierre « Ne te cache pas Robespierre, tu me suis hein. ». Ce qui se passera 3 mois plus tard, c'est Robespierre lui aussi qui sera guillotiné. Mais alors à ce moment-là, au moment où Danton est éliminé, il n'y a plus personne au fond pour s'opposer à Robespierre. Il est au fait, on peut le dire, de sa puissance en avril 1794, rien ne l'arrête et il va même jusqu'à inventer une religion nouvelle qu'on appelait le culte de l'être suprême. C'était quoi ça?
Alors, finalement, on s'est beaucoup moqué de ce culte de l'être suprême qui avait, entre guillemets, sa raison d'être. Et là, on peut rendre hommage d'une certaine manière à la perspicacité de Robespierre qui a compris qu'il y avait eu toute cette politique de déchristianisation en l'an 2, en l'automne 1793, qui est très très virulente. On détruisait les temples, on faisait fondre les cloches, on obligeait les prêtres à se marier ou on les déportait, etc. Bon. Robespierre a compris qu'une idée, il fallait remplacer une idée par une autre. Il avait participé à cette destruction du culte catholique et des églises. Il n'y avait pas que le culte catholique, mais c'était plus important. Et il a compris qu'il fallait remplacer une idée dans l'esprit du siècle, c'est-à-dire une religion dépouillée de tout ce que le clergé catholique y avait mis d'entrave, presque une sorte d'héritier du jansénisme, du protestantisme, de toutes ces tentatives de réforme au sein du christianisme. Et il y a là un aboutissement. Et je crois que...
Une espèce de déisme.
Voilà, mais il faut peut-être pas le prendre seulement de manière cynique. C'était une démarche qui était intéressante. Bon, elle a contribué aussi à sa chute. Mais elle a eu le mérite d'exister.
En tout cas, elle était curieuse. Hein. C'était un culte pour la première fois célébré le 8 juin 1794 à l'occasion d'une fête mise en scène, d'ailleurs par le peintre David, et présidée bien sûr par le grand maître, si on peut dire, de ce nouveau culte, Robespierre, devant un public d'ailleurs qui commence à manifester son hostilité à Robespierre.
Peuple de France, République chérie, près de cet arbre de la liberté, je vous dis que jamais le monde n'a offert à son créateur un spectacle plus digne de lui, et que vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort.
Il se prend pour le
pape. Je ne parle pas d'un Dieu. Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature. Son temple est l'univers. Son culte est la vertu. Nous refusons le faux dieu de l'athéisme et voici que naît la sublime déesse de la raison.
Écoutez 2000 ans d'histoire sur France Inter, aujourd'hui Robespierre et cet hymne à l'être suprême, père de l'univers, suprême intelligence, bienfaiteur ignoré, des aveugles mortels. C'était ta version chantée le 20 prairial en 2, je crois que c'était donc le jour de ce culte de l'être suprême sur le champ de Mars, en juin 1794, et au moment, on vient de l'entendre, où Robespierre commence à être sérieusement contesté, critiqué, accusé même d'être un dictateur, où on se moque de lui parce qu'il se prend pour le pape.
Oui, alors cette question de l'être suprême a permis de cristalliser un petit peu tous les mécontentements. Il y a des gens qui étaient plus portés vers un laïcisme, vers une autre façon de considérer la religion, qui ont utiliser ce prétexte pour précipiter la chute de Robespierre. Et c'est en effet ce qui va se passer.
En l'accusant de dictateur, alors, il est vrai que deux jours après ce culte de l'être suprême au Champ de Mars, alors là, la terreur s'aggrave encore avec une loi qui facilite le travail des tribunaux révolutionnaires. Quand on sait ce qu'ils ont déjà fait, là, ça va être la grande terreur. On interdit dans les tribunaux révolutionnaaires, on supprime les plaidoiries, on auditionne plus les témoins. Vraiment, c'est un pouvoir discrétionnaire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la justice française, et on a peut-être que ça ressemble au fond aux tribunaux ou à la justice du temps de Hitler ou de Staline, au fond.
Alors, en effet, là, c'est ce qui a été considéré comme l'un des plus grands dérapages de cette période. On a appelé ces lois scélérates de Prairial, pardon. Et en effet, c'est vraiment un enterrement en grande pompe des dernières libertés publiques, des derniers droits de la défense, etc. Alors, Robespierre a eu, on le sait, a été évidemment moteur avec son ami Georges Couthon, avec d'autres, juste, le représentant dans le Vaucluse aussi, Meignet, qui a été demandeur sur cette loi. Bon, tout ça c'est précipité, et il y a une adéquation aussi, là encore, entre, on en revient à la terreur et la vertu, la terreur avec ses lois de Prairial, la vertu avec la fête de l'être suprême, et tout ça s'agence à peu près dans la même période, au même moment.
Et au moment où, donc, on le conteste de plus en plus, on l'accuse de dictature, et au moment où cette terreur que, en tout cas, il justifiait par les circonstances, en disant il faut pas de traître au moment où la patrie est en danger, eh bien, justement, la conjoncture s'améliore, le danger extérieur est passé. Le 26 juin, quelques jours après cette loi, c'est Jourdan qui, par la bataille de Fleurus, la victoire française de Fleurus, écarte le danger extérieur. Alors là, la terreur devient insupportable, et elle fait peur aussi à tous ceux qui vont se mettre à comploter contre Robespierre, qui sont pas des anges non plus, qui sont souvent d'anciens terroristes, hein, ou des terroristes à peine repentis. Il y a Tallien, il y a Fouché, qui se disent, qui ont très peur que ce soit leur tour aussi de passer sous le
risque. Exactement. Et ça, c'est à partir du moment où ils se sont sentis eux-mêmes proches du coup près. Parce que l'erreur fatale de Robespierre, c'est d'avoir laissé planer le doute sur les membres de l'Assemblée, en disant qu'il va falloir chasser les traîtres, il va falloir faire une grande épuration. Mais ce que voulaient savoir les députés, c'est est-ce que nous, on sera dans le... Et il a laissé planer le doute. Donc tout le monde était... C'est d'ailleurs l'essence d'un système totalitaire. Il n'en a pas la caractéristique encore, mais c'est ça l'essence, c'est que la terreur plane sur toutes les têtes.
Alors là, vous évoquez, Laurent Dingli, la fameuse séance du 9 Thermidor, quand Robespierre... Alors Robespierre, il faut le savoir, et ça aussi, ça facilitait la tâche de ses adversaires, avait disparu, ne se présentait pratiquement plus pendant quelques jours, pendant plusieurs jours aux séances du comité de salut public et à la convention, et quand il y arrive précisément les 8 et 9 Thermidor, c'est une fois de plus pour accabler des suspects, pour dénoncer des suspects avant qu'on le fasse taire et donc et le fasse arrêter. C'est un des épisodes les plus célèbres de la Révolution française, le 9 Thermidor, 27 juillet 1794.
Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyr pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi ? Qui répand ces mensonges ? Je suis venu ici révéler une vaste conspiration.
Citoyen, je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Des noms !
Oui, des noms !
Des noms !
Des noms !
Des noms !
Il n'y a pas qu'un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran !
Mort au tyran !
Mort au tyran !
Mort au tyran !
Je demande la parole !
Tu n'as plus droit à la tribune !
Robespierre !
Je propose un décret d'accusation contre Robespierre !
Et Robespierre qui sera arrêté et guillotiné le lendemain, une fin terrible d'ailleurs, épouvantable. Il était défendu par la Commune, et je sais plus, il y a une balle qui lui traverse la mâchoire.
Alors il y a les troupes de la Convention, vers 2h du matin, investissent l'hôtel de ville où sont retranchés Robespierre, Couthon, Saint-Just, Lebas, tous les fidèles, et il n'y a plus que quelques fidèles, les défenseurs sont partis, et à ce moment-là tout se précipite, il y a une balle qui est tirée, alors on ne saura jamais, bon, on a une idée, mais certains disent que Robespierre s'est tiré une balle et il s'est raté, il voulait se suicider, et il s'est tiré dans la mâchoire, il s'est exposé à la mâchoire. L'autre, certains, on dit que c'est un gendarme qui est bon. Alors il est transporté dans cet état.
Sur la guillotine.
Moi je pense qu'il s'est suicidé, ce qui ressemble plus au personnage. Ouais. Et il va d'abord souffrir énormément avant d'être transporté à la guillotine, et il va être guillotiné dans cet état.
Alors ça s'est passé il y a 210 ans, Laurent Dinguely, et depuis, à cause évidemment de la terreur, et ben il est un peu la mauvaise conscience de la Révolution. Aucune d'ailleurs des cinq républiques n'a jamais célébré Robespierre. Il n'y a pas beaucoup de rues, je crois même pratiquement aucune.
Il y a un métro Robespierre.
Ouais, pratiquement nulle part. En tout cas, il y a deux rues à son nom. C'est assez étonnant. On a même dit, on dit souvent, que d'une certaine manière, il a précédé, annoncé Hitler et Staline.
Alors, oui, il y a une part de... Bon, il faut toujours se méfier de ce genre de raccourci historique. Il y a une part de vérité et des choses sur lesquelles il faut être prudent. Alors, en effet, je crois que moi, plus au niveau psychologique, il y a beaucoup de points communs au niveau des personnalités, notamment entre celles de Hitler et de Robespierre. Ça, je sais que ça peut choquer certains, ça, c'est une interprétation, c'est un avis personnel au niveau de la psychologie individuelle, je dis bien. Mais, en revanche, au niveau... Et là, il faut être très prudent, on peut... absolument pas comparer le nazisme, l'état de l'Allemagne des années 30 avec ce qui était la France, qui n'était pas du tout une dictature absolue, qui n'était pas un état totalitaire. Donc là, c'est sur ça qu'il faut être prudent. En revanche, on s'est beaucoup focalisé sur la Troisième République a déifié un petit peu Danton, Robespierre c'est le méchant, bon, tout ça évidemment est un peu trop manichéen justement. Et Robespierre aussi, et je voulais juste conclure sur ça, que Robespierre aussi eut un héritage qui, après on peut l'interpréter comme on veut, mais qui fait partie de notre histoire, qui est celui du culte de la nation et qui a été transmis au-delà des restaurations, qui a été transmis à la Troisième République et qui a été aussi constructeur pour notre pays.
Il y a une très belle phrase dans le Figaro littéraire d'hier, citée par Max Gallo, qui parle de votre livre, Laurent Dinguely, c'est cette phrase de Jaurès. Il dit « Oui, il y avait en lui, de Robespierre, il y avait en lui du prêtre et du sectaire, une prétention intolérable à l'infaillibilité, l'orgueil d'une vertu étroite, l'habitude tyrannique de tout juger sur la mesure de sa propre conscience, et envers les souffrances individuelles, la terrible sécheresse du cœur de l'homme obsédé par une idée qui finit peu à peu par confondre sa personne et sa foi, l'intérêt de son ambition et l'intérêt de sa cause. » Une belle formule, qu'est-ce que vous en pensez ?
Très belle formule, sauf que je dirais pour ma part qu'il ne l'a pas confondu progressivement, c'est dès le départ, dès cette sorte de révélation, il a eu cette adéquation qui pour lui était une sorte de défense par rapport au monde extérieur.
Merci Laurent Dinguely, je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie très complète de Robespierre qui a été publiée chez Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution française de Richard Effron et Robert Henrico. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Virginie Bloch-Léné, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, et à la réalisatrice Anne Kobilac. Programme de la semaine prochaine, lundi, les bombardements alliés sur l'Allemagne pendant la guerre. Mardi, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, celui qui a aboli l'esclavage, Victor Schœlcher. Mercredi, les Juifs et la France. Jeudi, l'affaire du collier de la Reine. Et enfin, vendredi, nous rendrons hommage...